Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette troisième journée Mangatan du festival Utopial. Cette journée va donc se dérouler en trois grands moments. D'abord, une conférence sur le manga et plus particulièrement des mondes meilleurs en rapport avec la thématique générale de cette dixième édition des Utopiales. Ensuite, vous aurez le traditionnel et désormais reconnu concours de cosplay. Pour finir enfin à 18h30 avec une séance de projection en avant-première nationale, Evangelion 2.0, You Cannot Advance, suite du premier volet que nous avions diffusé l'année dernière dans le cadre du même festival. Grosse avant-première puisque le film n'est sorti que le 27 juin cette année au Japon. Alors cette troisième journée Mangatan se situe de nouveau en partenariat avec la Semi-Temps. Je remercie une nouvelle fois donc la TAN et son président, M. Boswilwald, pour son soutien à l'événement. Et cette journée, comme l'a dit Paul Bilodeau, directeur de la Cité de Congrès, lors de la soirée d'ouverture, c'est un peu aussi un événement dans l'événement. C'est grâce à vous qu'on peut le perpétuer d'année en année. Donc je vous remercie de répondre à chaque fois présent à l'appel. Donc pour cette conférence sur le manga et les mondes meilleurs, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Denis Sigal.
Bonjour.
Denis Sigal est enseignant à l'Université de Bretagne occidentale. Il est le premier à avoir introduit des cours sur le manga et sur l'animation japonaise à l'université en France, voire en Europe, voire en Occident. Et donc il a une approche, il est habitué de parler de ces sujets-là et je pense qu'on va apprendre des choses durant cette conférence. Donc je le remercie d'être venu.
Ah ben c'est moi qui remercie non seulement toute l'organisation des Utopiales et bien sûr Morgane et tous ceux qui ont permis l'organisation et ma venue aujourd'hui. Et je dois dire que je suis extrêmement heureux d'être parmi vous aujourd'hui sur ce sujet. Et donc chacun est à sa place.
Alors on va attaquer directement la conférence, la discussion autour des mondes meilleurs. Pour toi, des mondes meilleurs, ça évoque quoi dans le manga ?
Alors donc dans le manga, donc dans tous ces univers imaginaires qui sont présents dans la bande dessinée japonaise, dans l'animation japonaise, bon c'est très présent. Mais d'abord parce que dans le manga, dans l'animation japonaise, il y a une grande part de science-fiction. Les auteurs japonais vivent dans une société qui est très avancée. Le Japon qui est très avancé techniquement, technologiquement, qui est le pays de la robotique, qui est un pays propice à imaginer des endroits différents, futuristes, où les choses, voilà, on va voir, se passent mieux et sont plus souhaitables. Et donc on va brasser un certain nombre d'axes à travers des œuvres de bande dessinée japonaise, à travers des œuvres d'animation japonaise, donc qui nous montrent ce que sont ces visions des auteurs japonais.
Il y a une œuvre culte de la science-fiction japonaise dont tu m'as dit que tu aimerais parler aujourd'hui, c'est Gunm. Pourquoi Gunm ?
Alors d'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent cette série-là, mais c'est un très grand succès chez des éditions Glénat. C'est une forte vente sur le marché français de la bande dessinée. Et bon, c'est une œuvre très forte qui a conquis l'Occident et qui présente justement cet aspect d'utopie sociale et technologique à travers la cité que l'héroïne veut atteindre, que beaucoup de personnages de la série veulent atteindre. Et cette série-là, donc cette cité-là, c'est la cité de Zalem, la cité suspendue dans les nuages. Et cette cité est un peu une sorte d'utopie technologique parce que les individus vivent dans une sorte de quiétude qui est rendue possible par cette maîtrise de la technologie et où ils n'ont rien à faire, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de guerre. Et ça nous apparaît comme étant vraiment le lieu idéal. Donc on comprend que les personnages qui ne sont pas à l'intérieur de cette ville de Zalem tentent d'y accéder, mais bon, c'est le, le contre-coup de cette utopie, ils ne le peuvent pas puisqu'ils sont, d'autres personnages sont dans une ville qui s'appelle La Décharge, et où le récit commence d'ailleurs. La cité de Zalem, elle est très intéressante. Est-ce que c'est un monde meilleur? C'est un petit bout de monde meilleur. Tout y est réglé parfaitement. C'est un peu quelque chose qui nous rappelle les récits de science-fiction de du troisième quart du XXe siècle. Hein. C'est-à-dire des projections sur comment devraient être organisées les choses. Puisqu'on va jusqu'à... la liberté de l'individu est absolument respectée. Il y a même une machine à suicide pour ceux qui veulent mettre fin à leur vie s'ils ne veulent plus partager cette utopie-là à l'intérieur de cette cité.
Et est-ce qu'il y a des désillusions par rapport justement à ce monde utopique qui est dépeint dans Zalem ?
Alors effectivement, il y a les aspects cachés, c'est que les citoyens de Zalem, en vérité, doivent, à leur majorité, doivent abandonner leur cerveau véritable pour se faire greffer une sorte de puce qui va permettre de fonctionner, voilà, comme on le voit sur l'illustration. C'est le secret de ces habitants-là. Leur cerveau est transféré et donc ils ne sont plus tout à fait humains. Et la compréhension de cette vérité-là, d'ailleurs, rend un grand nombre de personnages à moitié fous.
Du coup, ça revient à perdre en quelque sorte son humanité ?
Pardon ?
Ça revient à perdre son humanité pour ces personnages-là ?
Oui, tout à fait, d'autant plus que toute la série elle-même est une réflexion sur ce qu'est être humain, puisque le personnage principal, l'héroïne Gali, est une sorte d'être humain entièrement robotisé, puisque tout est robotisé à l'intérieur d'elle, sauf justement son cerveau. Et donc dans ces conditions-là se pose une question qui est une question d'ailleurs très courante dans la science-fiction. Qu'est-ce que signifie être humain ? Est-ce que quand je suis complètement retapé avec de la ferraille, est-ce que je suis encore un être humain ? Qu'est-ce qui fait de moi un être humain ?
Effectivement, une thématique chère à la science-fiction et aussi à tous les questionnements autour de l'humain modifié.
Oui, tout à fait.
Et en termes organisationnels, cette cité, elle est structurée comment ? Comment le pouvoir... et organisé.
Oh là. Là, on va chercher des développements dans le récit sur la suite de cette série-là, des choses qui sont publiées en France actuellement, qui se nomme Gun Blast Order, dans la suite, et qui nous montre que cette série de Zalem, cette cité de Zalem, est reliée à un ensemble interstellaire tout à fait intéressant, puisque les êtres humains ont conquis d'autres planètes. Ils se sont modifiés puisqu'ils vivent depuis longtemps sur tous ces d'autres astres, et à tel point que eux aussi ils contrôlent l'ADN, ils contrôlent tout ce qui touche à la technologie, et ils n'ont plus rien d'humain dans leur apparence, voire... Ce qui est terrible et ce qui est très pessimiste dans ce récit-là, ils n'ont rien d'humain dans leur comportement, hein, puisqu'ils se révèlent être des personnages extrêmement cruels, sans aucune humanité, justement. Hein, le système de gouvernement interstellaire est une sorte de lieu de pouvoir extrêmement dur, très, très, très peu fréquentable.
En termes d'utopie justement sociale permise par la technologie, il y a une autre œuvre dont tu avais envie de parler, qui d'ailleurs a été mise à l'honneur hier lors de la remise de prix des Utopiales.
Oui, tout à fait. Donc c'est ce manga nommé Ikigami qui a reçu donc le prix spécial hier soir. Donc c'est un récit qui nous a beaucoup frappé pour tous ceux qui en ont été lecteurs, puisque c'est une sorte de situations où on contrôle le corps social en contrôlant la vie et la mort des individus d'une manière là aussi quasiment totalitaire, puisque bon, c'est un futur d'anticipation assez proche de nous, où les individus se voient injecter une capsule qui peut provoquer leur mort autour de leurs 20 ans. mais un sur mille se voit véritablement exécuté de manière totalement arbitraire. Afin, bien, cela a une justification hein, dans cet univers proposé par cet auteur, c'est afin que chacun puisse bien se rendre compte de la valeur de la vie. Voilà, si je sais que la vie ne tient qu'à un fil, je vais mieux en profiter. Bon, au fil du récit, hein, on se rend compte hein, que c'est, bon, bien sûr, ce genre de manière de, d'étreindre l'être humain dans ce qui est sa propre vie, bon, bien sûr, c'est extrêmement effrayant et bon, les personnages sont mis en face de ça.
Justement, les personnages qui sont chargés de faire en sorte que le système fonctionne, pourquoi est-ce qu'ils acceptent ça? Est-ce qu'il y a de la rébellion ou est-ce que, a priori, le système est ancré dans l'esprit de chacun?
Ben, là, c'est des choses assez terribles puisque bon, c'est des fonctionnements bon, qui nous rappellent les fonctionnements fascistes hein, du type personne ne doit remettre en cause cette organisation. C'est un peu le personnage principal qui apporte cet ikigami, ce préavis de mort à tous ceux qui malheureusement doivent laisser leur vie parce qu'ils ont un sursis avant de mourir. Ils ont un sursis d'une journée, je crois. Eh bien, il s'agit de fonctionnaires, donc ce sont des fonctionnaires de la mort qui ne se posent pas beaucoup de questions. Enfin, le personnage principal est malheureusement pour lui un personnage qui commence à se poser des questions sur ce qu'apporte vraiment cette organisation sociale.
Au début du manga, d'ailleurs, on voit une scène où une des apprentis fonctionnaires conteste en fait le système de l'ikigami et il lui est réservé un destin assez tragique.
Voilà, il passe à la trappe immédiatement. C'est toute remise en question est interdite. C'est la mort qui attend celui qui s'oppose ce rouleau compresseur arbitraire.
Et tout ça est motivé par le bonheur de la nation.
Mais tout à fait. Hein, il s'agit de faire comprendre au peuple hein, cette valeur de l'existence. Donc, est-ce qu'on est dans un monde meilleur? Quel est le prix à payer pour le monde meilleur? Ça, c'est ce que nous pose la question que nous pose l'auteur.
Oui, parce que si on regarde un peu les familles qui sont dépeintes dans le manga, on n'a pas vraiment l'impression que les gens sont plus heureux avec une société qui, pourtant, lui veut théoriquement du bien.
Oui, ouais, tout à fait. Oui, parce que la vie reprend ses droits. Et bon, ce que l'auteur montre bien, bon, c'est que la vie ordinaire n'est pas beaucoup modifiée quand on a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête.
En fait, il faut aussi savoir que Ikigami, petite parenthèse, a été adapté au Japon en film live. Et on peut espérer le voir arriver en France l'année prochaine puisque les droits français ont été acquis. Donc peut-être au cinéma à suivre si au-delà du média bande dessinée papier, vous voulez le découvrir sur scène. Et à mon avis, ça sera tout aussi angoissant puisque quand on lit Ikigami, ce qui frappe, c'est vraiment la proximité de cette société avec notre société.
Ah oui, c'est très très proche. C'est ce qui fait froid dans le dos, oui.
Il y a une autre œuvre en fait où le corps social paraît si on va dire maintenu par un ordre notamment militaire. Ouais. C'est l'œuvre culte qu'est Akira.
Ouais, Akira, c'est bon. Alors c'est à la fois une bande dessinée et un film d'animation donc qui sont extrêmement connus hein, qu'on ne présente plus. Donc c'est le début du récit se situe donc à Neo Tokyo hein, cette capitale extraordinaire, futuriste, moderne, hein, où les individus, là aussi, hein, sont comme le Japon moderne d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans une posture d'oisiveté, hein, où on profite en apparence beaucoup de la vie. Mais là encore, hein, ce qui est montré par l'auteur Katsuhiro Otomo et qui lui vient de son expérience personnelle et qui ressort beaucoup dans son œuvre, son rapport aux événements ce qui correspond au Japon en mai 68, hein, c'est-à-dire un certain nombre d'événements qui au Japon ne se sont pas déroulés uniquement sur une période aussi concentrée que mai 68, mais qui ont eu lieu dans les années 68, 69, 70 et qui ont été notamment à la fois un mouvement ouvrier et intellectuel. Je pense notamment à la fois à l'occupation des sols en réaction à la construction de l'aéroport de Narita qui est aujourd'hui le grand aéroport de Tokyo, et d'un autre côté au mouvement étudiant du campus de l'université de Tokyo. Ça, c'est l'imaginaire japonais qui correspond chez nous à mai 68, et Katsuhiro Otomo, auteur d'Akira, il est porteur de ça. Et il l'a mis dans toutes ses œuvres, on le retrouve dans toutes ses œuvres. Et dans Akira, dans ce Néo-Tokyo, cette ville extraordinaire qu'il nous présente, une ville glorieuse, avec des qui est vraiment, comment dire, lumineuse, extraordinaire, eh bien, elle ne peut exister. Hein, voilà, on voit bien la ville dans toute sa gloire. Hein. Cette ville-là ne peut exister que parce qu'il y a un contrôle très dur, parce que ceux qui veulent remettre en cause la corruption des élites, eh bien, sont fortement frappés, fortement réprimés. Hein, voilà, par des. Bon, ici, on voit des extraits du film Akira. Des forces de police qui ne laissent place, encore une fois, hein, à aucun trait discordant. C'est une société qui apparaît idéale, c'est un monde meilleur dans son vernis, dans ce qui nous est présenté, mais encore une fois, ça ne peut exister qu'au prix d'un contrôle très dur. Les scènes où des révolutionnaires sont attrapés par la police et sévèrement châtiés sont très dures, très sanglantes. Donc c'est à ce prix-là qu'on a... C'est à ce prix-là que les personnages d'Akira mangent du sucre chez eux.
Et dans Akira, il y a vraiment deux mouvements, en tout cas dans le manga. Ce mouvement où Tokyo est présenté de la manière dont tu le dis. Et puis, un autre moment, la seconde phase en fait, du manga, qui balaye en fait, toute la structuration qui avait été faite avant pour proposer quelque chose de neuf. Hein.
Oui, alors voilà, c'est effectivement les deux moments de cette série Akira, qu'on ne voit pas dans le film d'ailleurs, mais qu'on voit dans la bande dessinée. Parce que dans la bande dessinée, la ville est détruite par la puissance psychique du personnage d'Akira. Et ce qu'il en reste ensuite est une sorte de montagne de gravats extraordinaire où la loi du plus fort règne et où l'organisation sociale devient complètement déstructurée et où on voit que l'on n'obtient pas du tout un monde meilleur, en l'occurrence, mais au contraire, comme dans beaucoup de thèmes en dehors du Japon d'ailleurs, lorsque l'organisation de l'État a disparu, eh bien, il ne reste plus que la loi du plus fort.
Donc on voit un corps social très, on va dire, contrôlé, structuré, avec de fortes pressions qui s'exercent sur lui.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est des idées qu'on peut mettre en relation avec l'essai Le Japon, camisole de force, hein, qui est un ouvrage qui a été paru dans les années 80, qui montrait à quel point la société japonaise était une société comme ça, où l'individu n'avait pas voix au chapitre, hein, où il devait participer, hein, à cette société sans trop réfléchir. Hein, et ça, c'est... Autant Ikigami que surtout Akira, hein, ce sont des œuvres qui réagissent en allant dans la même direction.
Et l'humain peut-il encore s'évader ou trouver une dimension de liberté dans une société tellement contrôlée ?
Alors, pas vraiment socialement, pas vraiment dans ses relations sociales, mais il y a d'autres œuvres qui proposent... de s'évader, et qui propose à leur personnage de s'évader dans leur esprit. Et donc ça nous fait voir autre chose, hein, c'est les visions imaginaires très fortes que les Japonais ont pu avoir sur que se passerait-il si on pouvait s'évader dans son esprit en contrôlant cette évasion de l'esprit, en contrôlant les sens de l'être humain, en contrôlant l'imaginaire. Hein. Et donc J'ai voulu montrer ça à travers un manga qui est sorti en France et que certains ont peut-être lu, qui est très, très intéressant, qui s'appelle Ultra Heaven, comment s'appelle, Koichi
Koike,
où l'être humain est arrivé, grâce à des recherches, à créer des stupéfiants tels qu'ils permettent facilement et sur ordonnance d'avoir des visions, de faire des tripes, littéralement, mais de manière sûre, de manière contrôlée. Et ce que ce manga montre, c'est que se passerait-il si nous vivions dans un tel univers, une société comme la nôtre, légèrement futuriste, où on pourrait commander une illusion dans un bar où le barman ne sera pas un faiseur de cocktails, mais un faiseur de stupéfiants qui vont faire passer l'individu dans des tripes extraordinaires. Et il y a dans cette série de bandes dessinées vraiment une très grande maestria graphique, hein, qui nous fait voyager à l'intérieur de ces hallucinations du personnage. C'est un voyage graphique, un voyage narratif qui nous fait passer dans le dérèglement complet des sens et qui nous pose la question: est-ce que l'on aurait encore envie de revenir dans le monde réel si on avait atteint un tel degré de plénitude, hein? Quand on arrive sur commande au septième ciel, hein, comment fait-on pour en revenir?
C'est une thématique d'autant plus d'actualité en lien avec toutes les discussions autour des univers virtuels et aussi le fait de se projeter dans des univers, ça peut être des univers de jeux, des univers alternatifs.
Oui, complètement, tout à fait, oui, c'est jusqu'où peut-on aller, c'est-à-dire à partir de quel moment est-on perdu, quelle est encore la valeur du monde réel quand on a une partie de sa vie, j'ai envie de dire en ligne ou dans différentes sortes d'imaginaires, tout à fait.
Et tout à l'heure sur Ikigami, on parlait du bonheur de l'être humain. Est-ce que ces personnages qui s'injectent des drogues pour avoir des tripes hallucinatoires sur commande, est-ce qu'ils y trouvent leur compte à ce niveau-là, ou est-ce que c'est un palliatif à une société qui ne répond plus à leurs attentes?
Ça, c'est difficile à dire, parce que je ne crois pas que, contrairement à Akira, Ultra Heaven, ce n'est pas vraiment une série qui est faite dans un but social pour nous prendre par le collet et nous faire trébucher, nous bousculer. Ces choses-là ne sont pas très développées. Les personnages sont dans le quotidien. Il s'agit de montrer le voyage de l'esprit, le voyage imaginaire, à partir simplement de quelque chose qui est devenu simple.
Cette thématique aussi, on la retrouve dans d'autres œuvres de science-fiction, science-fiction plus large, américaine, européenne, etc., mais aussi dans la science-fiction japonaise.
Oui, alors certains d'entre nous donc, se rappellent certainement que cette manière de dire on va contrôler l'imaginaire, on va contrôler le rêve des gens, on va pouvoir faire voir aux gens quelque chose, on va pouvoir leur promettre qu'ils vont voir quelque chose. Bon, ça nous rappelle peut-être, pour les gens de ma génération, hein, le fameux dessin animé Cobra, qui est un manga très célèbre également, hein, où le personnage principal est un bonhomme ordinaire, hein, qui a son boulot, qui n'a rien de spécial, qui vit dans une société du futur, qui pour se distraire lui aussi, hein, de la même manière que les personnages d'Ultra Heaven vont chercher un trip dans un bar, le personnage de Cobra, au début du récit, décide d'aller voir un rêve, hein, c'est le cinéma du futur, hein, et il décide donc il choisit un rêve tout à fait ordinaire et il s'endort et il voit des choses, il voit des paysages extraordinaires, il vit une aventure extraordinaire. Bon, alors ça ne se passe pas comme il le croit, puisque il se révèle être lui-même un personnage qui s'est effacé la mémoire, et donc sa mémoire revient à la surface et le récit commence, puisqu'il se rend compte qu'il n'est autre qu'un grand pirate de l'espace. Et donc pour ce personnage-là, hein, le divertissement va devenir un récit d'aventure.
Quand nous avons préparé cette discussion par rapport à cette thématique, on parlait donc de contrôle des sens humains. Parmi les différents sens humains, il y en a un qui te frappe particulièrement. Je sais que tu en parles aussi dans certains de tes cours d'animation. C'est le Louis. Louis.
Oui. Ben oui, parce que bon, à partir du moment où on s'intéresse à la création dans le domaine animé, voilà, qu'est-ce que c'est que ça, hein, l'animation japonaise, qu'est-ce qu'elle nous apporte, quelles sont ses dimensions? Eh bien, ben, il faut faire très attention à tout ce qui est sonore, musical et également au niveau du doublage, parce que ce sont des dimensions qui sont extrêmement soignées dans l'animation japonaise. Quand on a préparé effectivement la conférence, bon, on s'est dit que les mondes meilleurs qui nous étaient donnés, ça nous faisait penser à une œuvre particulière qui avait mis en avant cette dimension sonore et musicale, qui est une coproduction franco-japonaise que certains connaissent peut-être, qui nous relie également à des anciens, des anciennes séries, à la fois par son esthétique et par la personne qui a été en charge du projet, qui est Interstella 5555. Alors qu'on a beaucoup de plaisir à présenter, puisqu'il s'agit d'une suite de clips musicaux qui ont été réalisés sur la musique du groupe français Daft Punk, donc spécialiste, grand groupe de musique électronique, qui a produit, qui est allé au Japon une fois leur album produit, c'est un duo, et qui sont allés chercher des réalisateurs susceptibles de transformer leur univers musical en récit animé. Et comme bon, ce sont des gens trentenaires, hein, qui ont un fort rapport nostalgique à un certain nombre de séries, les séries connues, hein, et donc celle qui nous vient à l'esprit tout de suite, hein, quand on voit l'illustration, c'est notamment le capitaine Albator, Harlock. Eh bien, ils sont allés chercher le créateur de Harlock, Albator, donc, c'est-à-dire Leiji Matsumoto, qui aujourd'hui est un créateur assez âgé, mais qui a accepté de superviser ce projet de création de clips musicaux, qui a donné en long métrage, les clips étant mis bout à bout, ce film musical très intéressant, très agréable, qui est Interstella 5555. Qui nous raconte comment un groupe musical est enlevé d'un monde qui est pour le coup complètement utopique, extraordinaire, où règne l'harmonie par la musique, où tout les donc il s'agit d'une race d'extraterrestres bleus, ils sont peut-être un peu schtroumpf, qui communient leur plaisir, qui célèbrent l'existence, hein, par la musique, dans un monde avec des couleurs très simples, très chatoyantes, au son de la musique donc de Daft Punk. Et donc ces quatre musiciens sont enlevés, hein, si vous vous rappelez peut-être avoir vu ces clips, puisqu'ils passaient il y a maintenant 4-5 ans de manière assez intense, hein, sur les chaînes musicales. Hein, ils sont enlevés, ils vont être récupérés par un astronaute extraordinaire qui finalement se sacrifie pour leur permettre de retourner chez eux, sachant que la fin de ce film musical est extrêmement positive. Les personnages de ce groupe de musique retrouvent leur planète et donnent une sorte de le premier concert interstellaire, puisque à la fois ils retournent sur leur planète et font de la musique, et la Terre qui les a découverts en tant que groupe aussi bénéficie de ce concert extraordinaire. Donc c'est à la fois c'est transgénérationnel, hein, puisque tous les personnages qui dansent au son de la musique dansent de 7 à 77 ans, mais en même temps c'est intergalactique, hein, puisque tous les groupes humains extraterrestres communient ensemble leur joie de vivre, hein, donc c'est un récit extrêmement agréable.
C'est intéressant la mise en abîme par rapport à cette œuvre-là, d'avoir un groupe français qui part vers un monde meilleur quelque part, ou vers un monde dont il était nostalgique, le Japon, puisque les œuvres de Leiji Matsumoto, Captain Harlock, connu en France sous le nom d'Albator, avaient beaucoup marqué les deux musiciens, et qui partent ainsi faire un film, des clips qui vont devenir un long métrage, et reviennent avec une œuvre qui dans lequel d'ailleurs il n'y a rien d'autre que de la musique, et qui peut parler à tous sur la planète.
Ben oui, c'est une sorte de retournement très intéressant, puisque c'est ce message positif hein, de communion complète, en fait, est illustré par l'esthétique de cet auteur, Leiji Matsumoto, donc qui a été connu pour précisément cette œuvre de Harlock, qui au contraire est une œuvre où le futur est présenté, certes, comme un monde très... où là aussi, hein, les choses sont en place de telle sorte que les humains sont dans l'oisiveté, mais le personnage de Harlock est un personnage de rebelle qui plaque cette oisiveté, cette facilité de vie, et qui affirme au contraire hein, que la vie est dure et qu'il ne faut pas s'assoupir sur ses lauriers. Et on est dans un retournement total de l'un par rapport à l'autre. Hein.
Et en fait, donc là, on a un monde harmonieux, on a quelque part un message d'espoir. Il y a un contrepoint assez fort dans d'autres œuvres qui ont tout autant marqué l'histoire de l'animation japonaise en France.
Oui, tout à fait. L'animation japonaise, le manga, ce sont des œuvres de l'esprit donc, qui sont créées dans... une société. La société japonaise, elle est très difficile, elle est très dure. Si vous êtes créateur dans la société japonaise, si vous travaillez dans le monde de l'animation, dans les industries de l'animation, dans les industries de la bande dessinée, vous avez un quotidien très difficile. Donc non seulement le Japon, société camisole de force, est une société dure, difficile, mais en plus de ça, à l'intérieur de cette société, vous y faites un travail éprouvant. Eh bien, je ne m'étonne pas que certains auteurs aient à l'intérieur d'eux la volonté de faire table rase de toute cette organisation sociale, même si elle apporte le confort, l'oisiveté, puisque le Japon est un pays de très grand confort, hein, où tout est facilité dans le quotidien, tant qu'on travaille dur. Cette facilité-là, le prix à payer, hein, c'est un peu comme dans les œuvres qui ont été présentées tout à l'heure, c'est de faire partie hein, de cette unanimité, hein, sans jamais avoir trop le choix de s'exprimer soi-même. Eh bien, il y a un contrepoint, c'est-à-dire que les auteurs japonais vont avoir tendance à dire « je veux que tout cela disparaisse » et « je veux que toute cette société soit balayée », donc comme dans Akira, de la même manière que la ville fière et arrogante de Neo Tokyo est balayée par les pouvoirs psychiques d'Akira, eh bien, certains auteurs décident que le dénouement du récit sera la destruction de la ville, la destruction parfois de l'humanité entière au prix de la survie de quelques-uns seulement. Alors bon, ça se voit, c'est des volontés de destruction qui se voient également dans les fameux films de Godzilla d'ailleurs, hein, tous les films de monstres hein, qui détruisent chacun à leur tour une ville du Japon, hein, où le monstre hein, c'est la force dont on a peur, mais c'est également la force de la nature qui va remettre l'homme à sa place et qui permet à celui qui vit difficilement dans cette société de prendre sa revanche.
Et en animation japonaise, il y a des titres qui te paraissent marquants dans le domaine.
Tout à fait. Parmi des choses qui sont connues du public, il y a ce qui me paraissait les plus représentatifs de cette tendance à la table rase, c'était en tout Macross, c'est-à-dire la première partie de la série Robotech, qui était diffusée en France il y a maintenant une vingtaine d'années, un petit peu moins, a comme argument, il s'agit d'une série de science-fiction où l'humanité, par chance, par accident, met la main sur une sorte de gigantesque vaisseau d'une grande puissance qu'elle utilise et qui lui permet de résister à une invasion extraterrestre terrible, mais qui, malheureusement... se déroule lors d'une bataille interstellaire épique qui voit la Terre dévastée de telle sorte que les seuls survivants à cette table rase de l'humanité sur cette Terre écorchée sont les simples l'équipage de cette forteresse interstellaire, hein, qui vont devoir repeupler la Terre. Hein, c'est-à-dire, on remet à zéro l'humanité afin de la reconstruire.
Là, dans les images qu'on voit, on a deux images de Macross. Donc, celle qui est à gauche et celle qui est en bas à droite. Il y a une deuxième œuvre dont tu as voulu parler, c'est 20th Century Boys, où là, on voit le fameux ami dont tu vas pouvoir nous parler un petit peu, tenir entre guillemets la Terre entre ses mains.
Oui, ça c'est une autre variante, puisque là, la menace n'est pas du tout, la menace qui pèse sur l'humanité n'est pas du tout extraterrestre, mais au contraire, c'est la menace intérieure de la folie humaine, hein, puisque c'est la série 20th Century Boys, c'est une série de bandes dessinées qui a donné lieu notamment à un long métrage cinéma qui est sorti en France il y a quelques
mois. Trois longs métrages dont les deux premiers sont sortis en France, tout à fait.
Trois longs métrages, d'accord. Et bon, c'est un argument qui, lui, repose davantage sur la peur de des sectes, de tous ceux qui peuvent contrôler le monde par la peur. Puisque le personnage d'Ami est une sorte de dictateur de l'ombre qui a la volonté de recréer dans le monde réel un simple argument de jeu de cours de récréation, hein, et il met en place une sorte de plan de destruction de la planète de la même manière que le groupe de copains d'école primaire le faisait quelques années auparavant. Et lui aussi, hein, son objectif, hein, est de raser la Terre, bon, dans des projets qu'on trouve assez souvent, hein, dans la science-fiction ordinaire, moderne, à savoir un virus va se propager sur toute la Terre et va, bon, régler son compte à la plupart de l'humanité, hein, bon, là, en faisant en exprimant donc des peurs qui sont extrêmement à leur place, hein, dans le monde moderne.
Là, maintenant, il y a aussi encore une autre œuvre qui, là, date d'il y a un peu plus longtemps, dans laquelle on faisait table rase.
Ah oui, tout à fait. Hein. Certains d'entre nous se rappellent peut-être d'une très ancienne série qui est passée il y a maintenant plus de 25 ans, une série de robots géants qui s'appelait L'Empire des Cinq, hein, où les personnages sont... donc c'est une série de robots très connue, moyennement connue, où les personnages, donc là aussi, luttent contre des forces extraterrestres surarmées et doivent trouver un empire caché afin de sauver l'humanité, ce qu'ils ne réussiront pas à faire, puisque le dénouement du récit, là aussi encore, hein, c'est une destruction totale de la Terre. Exactement le même argument, hein, que précédemment le récit de Macross. Hein, les cinq frères et sœurs et leur père sont les seuls survivants, hein, de cet ultime affrontement. Et ils doivent repeupler eux-mêmes la Terre, hein, en reprenant du début l'humanité. Donc, c'est une thématique très proche de la Genèse. Hein, donc dans une vision, bon, qui nous ne nous étonne pas trop, ben, dans notre état d'esprit judéo-chrétien, mais qui est un peu plus rare au Japon.
Enfin, pour finir, on va aborder une œuvre culte des années 90.
Oui, tout à fait. À partir du moment, voilà, où on est dans cette vision des choses, que se passe-t-il lorsque des individus se retrouvent seuls sur la planète pour recréer une humanité? Bon, c'est difficile de passer à côté, hein, d'Evangelion, hein, qui est un dessin animé du milieu des années 90, qui a eu un succès extraordinaire, bon, qui est connu en France aujourd'hui, hein, et qui propose un récit extrêmement complexe, où la Terre, encore une fois, est attaquée par de nombreuses d'avoir des formes de vie très étranges, qui sont appelées des anges, dont on ne connaît pas grand-chose, dont on ne comprend pas les buts tout à fait, mais la défense de de la Terre est assurée par des jeunes gens, dont un héros, un jeune garçon extrêmement faiblard, extrêmement géniard, qui finalement est en position à la fin du récit lui-même de, une fois toute l'humanité, réunie dans une sorte de soupe primitive extraordinaire, est en position d'être le premier homme donc d'une nouvelle genèse, hein, puisque c'est le sous-titre de la série Evangelion. Et le dénouement de la série, hein, eh bien, c'est ce personnage qui choisit une seule jeune fille, avec qui il n'a pas de très bons rapports d'ailleurs, hein, pour être la nouvelle Ève. Donc il est lui-même le nouvel Adam, et ils sont deux à recommencer une histoire de l'humanité, puisque, encore une fois, hein, c'est l'idée que l'humanité est arrivée à un point de non-retour, et où la seule chose à faire, hein, c'est de faire table rase de tout ce qui existe, de tout faire disparaître dans des visions apocalyptiques, littéralement, et tout va pouvoir recommencer.
Ça peut être intéressant de préciser que cette série a vraiment plusieurs formes, c'est-à-dire il y a eu une fin en série animée. Là, la fin dont tu nous parles, c'est la fin des films The End of Evangelion de 1997. On ne vous raconte pas la fin, on n'est même pas en train de vous raconter ce que vous allez voir tout à l'heure à 18h30, parce que dans le genre « je fais table rase et je recommence », le réalisateur Hideaki Anno est assez fort.
Oui, ben, c'est un réalisateur qui a beaucoup donné. Il faut savoir que la création de la série Evangelion s'est faite dans des conditions délicates. Hein. Ça fait partie des séries qui ont été terminées au dernier moment. Ce qui se voit d'ailleurs dans la série télévisée, hein, qui est faite un peu de briques et de broc, hein, dans ces derniers épisodes. Les films dont tu as parlé, les longs métrages d'animation qui sont sortis en 97, d'abord résumer la série et puis présenter une fin plus explicite, plus nette, qui prenait davantage son temps, qui disait les choses plus frontalement, hein, au niveau de ce qu'il advient du monde, hein, une fois que les anges ont fini d'attaquer la Terre et que ces transformations ont lieu. Et donc dans ce dont tu nous parles, hein, ce long métrage Evangelion 2.0, qui est une reprise encore une fois de la série, nous propose encore une fois des chemins un petit peu différents avec l'arrivée d'un nouveau personnage, dont beaucoup de choses.
Voilà, une vraie relecture de l'œuvre originale. Elle-même, donc, ouais. Avec une fin dont on ne sait pas où elle nous mènera.
Non, pas du tout.
Voilà. Y a-t-il des questions dans le public?
Non.
A priori, non.
A priori, pas de questions.
À ton avis, l'animation japonaise, la vision japonaise dans les prochaines années ou même maintenant, elle privilégie quoi comme type d'utopie? Elle est dans... Est-ce qu'il y a vraiment des mondes meilleurs? Ou est-ce que par des changements infimes de la société actuelle, on peut arriver à trouver son compte dans la société?
Ah, c'est une question très, très difficile, hein. C'est parce qu'il y a un équilibre qui va être très dur à trouver chez les créateurs entre l'expression de la difficulté quotidienne, d'un côté, qui est maintenant présent dans la société japonaise, puisque c'est une société qui est très sérieusement frappée par la crise économique et qui n'y était pas préparée, hein, et qui adopte un peu ou prou, hein, des attitudes un peu comme les nôtres aujourd'hui, c'est-à-dire une attitude désabusée, hein, vis-à-vis du futur. C'est ce qu'on voit dans Ikigami, hein, c'est le futur devient un lieu très dur, hein, très désespérant. Et en même temps, ça reste une société où les créateurs sont des gens qui fonctionnent sur du rêve, hein, comme le disaient les intervenants qui nous ont précédés, hein, sur l'estrade. Hein, bon, c'est-à-dire ils vont chercher des manières magnifiques de chercher des ailleurs. Hein, je pense à un film d'animation qui est sorti cet été, qui s'appelait Summer Wars au Japon, où on redécouvre les plaisirs de la vie champêtre en sauvant le monde avec des téléphones portables et où, malgré les difficultés du monde moderne, eh bien, il y a un plaisir à être ensemble, un plaisir à être avec les autres générations et tout ça par le biais de la technologie. Hein, je pense qu'on est dans un... On a toujours cette bipolarité.
Merci, Denis.
C'est moi qui te remercie.
Bien. Pour finir, vous avez quelques documents incontournables si vous voulez approfondir votre connaissance du manga et de l'animation japonaise ou simplement mieux vous repérer dans cet univers qui paraît parfois difficile d'accès mais pourtant qui est plein de richesses et plein de valeurs. Et puis je vous retrouve dans 15 minutes pour le concours de cosplay.
À tout à l'heure.